Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous êtes passionné par le vin, par ceux qui le font et ceux qui le partagent. Un peu comme Ideal Wine finalement. Ideal Wine, notre PME française est devenue le site de référence des amateurs pour l'achat, la revente et la cotation de grands vins. Et nous en sommes très fiers. Car notre équipe de passionnés s'attache depuis 2000 à rendre accessible aux amateurs ce que le vignoble offre de meilleur. Deux types de ventes sont proposés sur notre site. Les enchères en ligne, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui le premier acteur mondial, et une offre e-caviste qui s'appuie sur un réseau de 900 domaines partenaires, également animé par des rachats de caves particulières expertisées. Ideal Wine est le seul site capable d'aligner côte à côte de vieux flacons et les tout derniers millésimes d'un même domaine. Ideal Wine, c'est une équipe engagée pour vous guider et vous accompagner dans la constitution d'une cave qui vous ressemble. Au service du vin, de ceux qui le créent et de ceux qui le partagent depuis 2000.
Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain.
Je suis Florian.
Je suis Antoine.
Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse.
Rendons à César ce qui est à César. C'est notre amie Alessandra Fotorino qui a eu l'idée de cet épisode. Vous savez les gars, nous a-t-elle dit, ça serait bien que vous vous présentiez, qu'on en sache un peu plus sur vous. C'est vrai que depuis 4 ans, on nous voit peu. Parce qu'avant tout, c'est pour les personnes que nous rencontrons que vous appuyez sur le bouton lecture. Mais quand même, après avoir écouté nos voix suaves et délicates depuis 4 ans, on s'est dit que oui, le temps est venu de nous présenter pour fêter tous ensemble notre 50e épisode. Et comme c'est elle qui a eu cette brillante idée, c'est également Alessandra qui mène avec talent cette interview et nous met sur le grill pour dévoiler les secrets et les anecdotes croustillantes du bon grain de l'ivresse.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Alessandra Fotorino, sommelière, formatrice et accessoirement passionnée de vin. Et aujourd'hui, je suis avec les garçons du podcast Le Bon Grain d'Ivresse, Romain Becker, Florian Nounès, Antoine Psica. Et j'ai décidé aujourd'hui de les mettre de l'autre côté du micro. Alors les garçons, le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse un peu savoir qui vous êtes, qui sont les trois personnes cachées derrière vos podcasts. Alors comment est née cette idée que vous passiez de l'autre côté du micro? Eh bien, je crois qu'un soir, on était tranquillement installés au restaurant Parcel avec Florian et Romain. Et après quelques verres d'alcool partagés, vivants bien sûr, je leur ai proposé de passer de l'autre côté et d'être interrogés à leur tour. Du coup, les garçons, est-ce que vous pouvez vous présenter, me parler de votre parcours et de ce qui vous a relié en amitié pour proposer un podcast?
C'est une vaste question. Je commence.
Tu commences, c'est parti.
Romain Becker, je suis dans le monde du vin depuis 2019. Pour être tout à fait transparent, c'est le podcast qui m'a mis la dernière pichenette qui m'a fait basculer dans le monde du vin. Avant ça, j'étais ingénieur dans l'industrie des hélicoptères. Et je connais Antoine depuis 17 ans, maintenant. C'est originellement un ami de ma compagne, Camille. Et je connais Florian parce qu'on a fait nos études ensemble dans la belle cité Poitevine.
Ok, super. Florian?
Donc Florian Nunez, je suis dans le monde du vin depuis bien plus longtemps que Romain parce que j'y suis arrivé en 2018, donc un an de plus. Pareil, j'ai fait un passage par la grosse industrie parce que j'étais acheteur chez EDF avant de basculer dans le monde du vin. Et j'y ai basculé par passion, j'ai entamé ma reconversion en tant que caviste avant de devenir maintenant agent commercial pour des domaines de passionnés en Gironde. Je suis revenu sur mes terres natales et j'ai rencontré donc Romain à l'école, comme il a dit. Et puis Antoine, notre amitié s'est forgée au gré du podcast, puisque nous avons fait nos premiers échanges lors de notre premier trajet en voiture pour aller en Bourgogne rencontrer le premier vigneron que nous avions interrogé.
Excellent. Antoine.
Et moi, donc, c'est Antoine Msika. Alors moi, je suis pas du tout dans le monde du vin à l'origine. Je travaillais dans la communication pendant une dizaine d'années. Maintenant, je travaille dans la transition écologique. Et concrètement, j'ai appris tout ce que je sais sur le vin depuis 4 ans, depuis qu'on a lancé le podcast. Et c'est clairement Romain et Florian qui m'ont tout appris.
Ok, super. Et du coup, Romain, c'est toi qui es arrivé avec cette idée, cette envie de podcast et qui a engrainé tes camarades. Comment ça s'est passé ?
C'est plutôt Antoine qui arrive avec l'idée.
Okay.
Il était entre deux jobs. Clairement, il s'ennuyait beaucoup. Et bon, on a toujours eu tous les deux une passion en commune pour les médias, le journalisme. Et il avait commencé à faire un autre podcast sur un sujet totalement différent qui était... Il demandait à des gens de parler de leur métier. Tu avais préparé des épisodes, mais je ne sais même pas si tu en as sorti un. Voilà. Et un jour, il me dit, mais ça ne te dirait pas qu'on fasse un podcast sur le vin ? Et je me suis dit, pourquoi pas ? On était globalement extrêmement naïfs.
Ouais,
mais c'est aussi
c'est
ce
bien.
Qui aide à se lancer, je pense.
Ah ouais.
Voilà. Et voilà. Et moi, j'avais repris contact avec Florian quelques temps avant.
Okay.
Parce que je me posais beaucoup de questions sur le fait justement d'aller bosser dans le monde du vin et j'ai vu sur LinkedIn que lui il travaillait chez un caviste et je me suis dit c'est le bon moment sûrement pour aller lui parler, quel est son ressenti, est-ce que ça lui plaît et voilà. Et pareil, il était plus ou moins en transition entre deux jobs parce que l'expérience du caviste, il vous en parlera mieux que moi, mais il y a eu des bons et des mauvais côtés. Et je me souviens d'un déjeuner où il me disait mais je voudrais aller passer du temps dans le vignoble, rencontrer des vignerons, voilà, sans but vraiment précis. Voilà. Je lui ai dit viens avec nous, on va faire un podcast et puis tu pourras rencontrer des vignerons, mais en plus on va produire quelque chose quoi. Donc
ouais.
On le tente quoi. Voilà un peu comment ça a démarré quoi.
Super. Donc occuper le terrain quoi. Et du coup qui fait quoi ?
Qui fait quoi ? C'est une bonne question. Le travail est pas très bien réparti parce que c'est quand même Romain qui en fait une grosse partie.
D'accord.
C'est Romain qui, en tout cas pour moi, mène un peu les entretiens. Antoine qui a la part sombre du travail et qui tient la perche tenant le micro, interrogeant le vigneron.
Ok.
Travail assez physique. Vrai travail de l'ombre, mais extrêmement important.
Ouais.
Et puis Romain s'occupe aussi beaucoup de la communication et de la portée médiatique du podcast.
D'accord.
Puis moi j'essaie un peu de trouver la place dans ce qui reste, mais je pense que ça nous va bien comme ça. On n'avait pas tout à fait les mêmes aspirations vis-à-vis du podcast au départ, comme l'a dit Romain. Moi j'avais une vague idée de ce que je voulais faire, mais je voulais aller dans le vignoble et ça a été une chose qui est bien tombée et ce qui a naturellement fait l'occupation de ces trois, l'occupation comme je viens de vous la présenter de nos activités quoi. Donc Romain un peu quand même tête pensante et en avant du podcast et puis Antoine et moi qui sommes un peu derrière quoi.
Ok, du coup Romain un peu moteur du podcast.
Ouais, j'aurais juste précisé quelque chose avant, c'est quand même Florian qui nous dégote à chaque fois les rendez-vous. Donc
sans
rendez-vous,
il n'y
a pas de podcast, voilà.
Clairement.
Et puis on participe tous les deux aux interviews, donc je prépare un peu plus que lui, mais quand même les questions, elles sont pertinentes. Et moi je trouve qu'on est assez complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et pas forcément les mêmes envies quand on va voir des vignerons. Donc ça je pense que ça enrichit nos interviews. Et dernière chose, il y a quelqu'un qui fait la part très sombre du travail aussi, qui s'appelle Emmanuel,
okay.
Qui est un ingénieur son, qui travaille beaucoup dans le spectacle et qui nous fait en fait une partie du montage et puis le mixage, donc toute la post-production pour que le son soit agréable. Donc lui, il passe un peu de temps là-dessus et donc... Il nous aide bien pour que le podcast soit meilleur. Quoi.
Voilà. Bravo Emmanuel, parce que l'ensemble est vraiment réussi. Du coup, tu parlais de vision du vin. Est-ce que vous avez une vision du vin qui est un peu commune, tous les trois, ou est-ce que vous avez des choses sur certains points où vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Par exemple, ce qui va vous amener dans le choix de vos portraits, est-ce que c'est des grandes discussions avec des débats enflammés, ou est-ce que c'est plutôt « ouais, très bien, ça me convient ».
On est plutôt d'accord en général.
Ouais, on est plutôt d'accord.
Je pense que... Bon, déjà, on a une vision commune, c'est qu'on aime boire du vin. Quoi. Voilà, donc ça, c'est le truc
base.
De base. Quoi. Voilà. c'est souvent des longues discussions, pas très enflammées, mais on se repasse les noms, j'aimerais bien aller voir lui, j'aimerais bien aller voir un tel ou une telle, ou alors il faudrait qu'on trouve quelqu'un d'intéressant, mais plutôt des jeunes, parce que dans cette région, on n'en connaît pas beaucoup, voilà. À chaque fois, autant que faire se peut, on essaye d'aller voir des jeunes, ou en tout cas des domaines récemment créés. C'est pas toujours des jeunes qui créent des domaines, mais
ouais,
des domaines récents.
Okay.
On essaie d'aller voir des domaines un peu confirmés.
Ouais.
Et puis on essaie d'aller voir un nom qui résonne un petit peu dans le monde du vin.
Ouais. Okay.
On l'a plutôt bien fait jusqu'à présent, je pense. Et moi, j'y tiens beaucoup parce que si on va voir que les noms qui résonnent, déjà, je sais pas s'ils nous accueilleraient tous.
Oui, tout à fait.
J'ai pas
bien
tout
sûr.
À fait cette prétention-là. Et puis, parce que c'est aussi bien de sentir où est la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils s'inspirent des anciens. Voilà.
Ok, bah, du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une région aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se lancent plus particulièrement, je ne sais pas, ça peut être le Jura, la Savoie ou des régions comme ça. Je sais que vous avez passé des bons moments là-bas.
J'allais dire le Jura, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de domaines.
Ouais.
En fait, on y allait en 2019. On allait voir des domaines qu'on avait vraiment envie de voir. Donc, on est allé voir Charline Labbé, on est allé chez Pierre Auvernois, Emmanuel Houillon, on est allé au Dolomie et on est allé au Bottes Rouges. Il y avait un peu de tout, là. Il y avait des domaines récents, il y avait des domaines confirmés. Y avait
comme
des
Auvernois
domaines,
qui
des stars,
existait depuis longtemps.
Ouais, voilà. J'avais l'impression de connaître un petit peu les vignerons du Jura, enfin en tout cas de connaître les noms des domaines et d'avoir goûté quelques vins. Mais depuis 2 ans là, c'est du délire. Le Jura, il y a vraiment
ça pousse.
Je découvre des domaines tous les mois quasiment. J'ai même pas le temps de goûter tout ce qui se fait. Donc je pense que le Jura c'est extrêmement dynamique.
Ouais, c'est impressionnant comme région.
La Savoie, effectivement, t'as raison. Après, j'ai rien qui me vient en tête là, d'autres régions. Bah, quand même, si la Loire, il se passe beaucoup de choses aussi. Hein. Il y a des gens avec qui on a pris des contacts qu'on aimerait bien aller voir, mais on pourrait aller dans la Loire pour chaque épisode en fait. Hein, tellement
carrément.
Ça,
puis il y a la Loire
bouge.
Volcanique aussi qui prend de la place.
Voilà,
qui
où j'aimerais bien
un
aller,
peu.
Que je connais bien et où j'aimerais bien aller parce qu'il y a des super domaines.
Oui, tout à fait.
Il y a quand même beaucoup d'endroits où ça bouge. Hein. Même en Bourgogne où il paraît que c'est difficile de s'installer, bah, il y a quand même des jeunes. En Champagne, c'est difficile de s'installer, mais il y a aussi des jeunes. Ça bouge quand même pas mal un petit peu partout, quoi.
Ouais, et puis il y a des régions émergentes, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Du coup, vous me coupez si je dis une bêtise, mais votre premier podcast, il était en ligne le 10 septembre 2019. C'était le tout premier.
Exactement.
Et puis depuis, vous avez diffusé 44 épisodes, suivi de la trilogie Meilleur sommelier du monde, qui est hyper intéressante. Et là, l'épopée de Pascaline Le Pelletier vient de démarrer. C'est génial, on a envie d'y être, on a l'impression d'y être. Du coup, ça représente quand même beaucoup de travail et d'implication. Vous avez des activités à côté. Comment est-ce que vous gérez votre temps par rapport à ça? Oula.
Bah, c'est une très bonne question parce que ça, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi, c'est peut-être la question d'après, ça demande un petit peu d'argent, ce qui était une question centrale il y a 1 an et demi. En gros, on peut pas faire plus que publier un épisode toutes les 3 semaines. Ça représente 3 jours d'enregistrement par trimestre en région. Pour mon cas personnel, je viens de Bordeaux maintenant, donc ça fait 2 jours de trajet en plus pour venir à Paris rejoindre Romain et Antoine, puis partir dans la région considérée, sauf quand ils viennent à Bordeaux. Donc ça fait une semaine pleine,
c'est ça.
Fois 4 trimestres, donc ça fait 4 semaines qui sont faites pour ça, plus après le temps de montage et de mixage derrière. Ça c'est le temps que je connais.
Ouais.
Après je vais repasser le micro à Romain pour qu'il puisse parler de tout le travail de communication sur lequel Antoine et moi on a un tout petit peu moins de vision.
Okay.
Mais c'est un gros travail. Et puis après l'organisation des rendez-vous, alors c'est un peu plus simple maintenant parce que... j'y vais plus sincèrement et sans trop poser de questions.
Au début, tu t'en posais ?
Oui, beaucoup.
Tu te sentais problème
illégitime.
Par rapport à la légitimité ?
Ouais.
Ok.
Illégitime, je sais même pas trop ce que ça veut dire, mais un peu. Tout à l'heure, tu as parlé de Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon.
Ouais.
On a eu de la chance, parce que c'est Emmanuel Houillon qui nous a dit ça, que sa femme réponde à notre mail, alors qu'a priori, il fait poireauter les gens pendant longtemps avant de répondre au premier mail d'une nouvelle personne. Je m'étais fait toute une montagne et puis finalement, au fur et à mesure d'avoir vu quelques vignerons et quelques vignerons un peu installés, on s'est vite rendu compte qu'il suffisait juste de poser la question et surtout d'avoir une réponse. Après, une fois qu'on a la réponse, c'est soit oui, soit non, on y va, on n'y va pas. Mais Donc ça représente quand même pas mal de temps. Ouais. Ça a été une question, à un moment, moi, ça a été un bouchon aussi dans ma vie professionnelle de savoir quel engagement je pouvais avoir dans le podcast. Quoi. Jusqu'à me demander si je pouvais continuer. Ouais.
Okay.
Ouais. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Après, c'est des tels retours de plaisir que la question se pose à une moindre mesure. Mais oui, ça prend beaucoup de temps.
Antoine.
Ah, c'est vrai, j'ai pas grand chose à ajouter. Effectivement, ça prend beaucoup de temps. Chaque épisode, c'est effectivement 3 jours. Enfin, chaque région, quand on part 3 jours dans la région, c'est pas mal d'orga pour y aller. Et derrière chaque épisode, chaque enregistrement, il faut les réécouter, les monter. Il y a pas mal d'échanges avec Manu justement pour le mixer. Donc ça prend pas mal de temps. Moi, j'ai un job salarié à côté,
oui.
Donc faut réussir à tout organiser. Mais effectivement, comme dit Flo, c'est quand même beaucoup beaucoup de plaisir. Et à chaque fois qu'on va dans une région, on se régale quoi.
Ouais,
s'égale sur le vin, sur les spécialités culinaires, sur les pâtes en croûte de la région.
C'est génial, c'est rempli d'échanges.
Ouais, à chaque fois, c'est 3 jours vraiment, vraiment super. Ouais. Et effectivement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aussi beaucoup. Enfin, chaque rencontre avec les vigneronnes et les vignerons est vraiment incroyable. On rencontre des gens, enfin, c'est des échanges humains qui. Je parlais pour moi personnellement, mais qui me sortent de mon univers start-up Paris, etc. Donc c'est hyper enrichissant en plus. Donc c'est vraiment chouette.
J'imagine que vous êtes dans le vrai à chaque fois. Vous vous retrouvez sur le terrain avec des émotions qui sont neuves à chaque fois. Romain, tu veux finir là-dessus ? Flo parlait du fait que toi, tu mettais aussi beaucoup en avant le podcast en termes de communication.
Ouais,
comment tu gères ça ?
Je zone un peu sur les réseaux sociaux, voilà. Okay. Je passe du temps un peu sur les réseaux sociaux. Il faut un peu occuper le terrain.
Ouais.
Il faut être vu des autres comptes. C'est effectivement moi qui prépare les photos, qui prépare les posts pour les réseaux sociaux. Donc ça me prend un peu de temps. J'avoue que jusqu'à récemment, le temps, je le comptais qu'à moitié. J'avais la chance d'avoir le temps de le faire. Ces derniers temps, ça a été un petit peu plus dur.
Ouais.
Enfin, en tout cas, de trouver les moments où organiser tout ça. Mais bon, je pense que c'est ponctuel. Comme tu l'as dit, on vient de commencer à publier la série sur Pascaline Lepelletier. Ça me prend du temps, mais je suis aussi très heureux de la sortir. Donc, je bosse un peu plus que d'habitude. Et puis voilà, quoi.
Ok, voilà. Super. Bon, c'est la passion avant tout. Et alors, les podcasts que vous faites, ils sont quand même assez ouverts. Vous allez parler de vigneronnes, de vignerons. Tu disais tout à l'heure, vous alliez aussi mettre l'accent sur des jeunes, ce qui est hyper intéressant. Il y a des sommeliers aussi, il y a des sommelières. Du coup, quelle est la vision du vin que vous avez envie de partager avec les gens qui vont vous écouter ? Votre philosophie, ce que vous voulez véhiculer à travers les portraits que vous choisissez.
Le premier mot qui me vient, c'est le plaisir.
Ouais.
Le plaisir. Jamais oublier que le vin, c'est une bouteille qu'on met sur une table et qu'on partage avec des gens et que c'est normalement le début d'un super moment qu'on va passer. Et après, sur les questions un peu plus de philosophie ou de technique de travail, je pense que l'axe est assez clair sur le bon grain de l'ivresse. On a envie de mettre en avant quand même ce qui est une petite partie du vin. Mmh. Malheureusement, ça, je laisserai les auditeurs, les auditrices y répondre. Mais une culture et une pratique dans les chais. Et puis j'aimerais aussi qu'on commence à questionner un peu ce qu'il y a derrière commercialement aussi, mais une pratique durable.
Bien sûr.
De leur activité et puis passionnée.
Ouais.
Voilà. Plaisir, durabilité, passion pour moi.
C'est un beau programme.
Très beau, en effet. Il y a quelque chose que j'aime vraiment bien dans nos épisodes, c'est de montrer tout le travail qu'il y a derrière une bouteille. Encore une fois, moi, je n'y connaissais vraiment pas grand-chose avant et c'est difficile de se rendre compte, de tout le travail presque artisanal parfois qu'il y a derrière. Enfin, vraiment, tout ce qu'il faut pour le travail, enfin, les hommes et les femmes derrière, le travail humain. Et comprendre que c'est pas comme une bouteille de coca, quoi. C'est pas des chaînes à l'usine. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette aussi d'essayer de mettre ça en lumière et de montrer, effectivement, comme disait Flo aussi, toutes les différentes façons de faire, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis ça se ressent vachement dans les portraits que vous avez interviewés.
Ouais, moi je pense que le mot qui résumerait pour moi les domaines qu'on choisit, enfin qui on va voir, ce serait le mot artisan en fait. On essaie d'aller voir des gens qui sont sur le terrain, qui sont proches de leur vigne, des gens avec qui ils travaillent. Alors on a vu des domaines de taille différente. Mais je pense que le plus gros domaine qu'on a vu aujourd'hui, c'est probablement Cheval Blanc.
Oui.
On est allé voir le directeur technique de Cheval Blanc, Pierre-Olivier Clouet, qui est quand même passionné peut-être au-delà du raisonnable, j'en sais rien, mais en tout cas qui est vraiment passionné et donc qui est pas loin d'une pratique quand même d'artisan, malgré le fait que ce soit un gros domaine qui vend des vins chers, qui est une renommée
Bordeaux.
Internationale. Mais je pense que si Cheval Blanc, ils ont des vins de cette qualité, c'est aussi justement parce qu'ils sont encore très proches du terrain et qu'ils ont une vision de la viticulture et de la vinification et de l'élevage proche de beaucoup d'autres artisans, quoi.
Oui, voilà. Donc en fait, vous avez envie aussi de véhiculer donc à la fois le plaisir et le travail du vivant, finalement, ce qui me semble assez important aujourd'hui, de pouvoir mettre en avant tous ces vignerons, tous ces vigneronnes. Du coup, petit point un peu jalousie de ma part, comment avez-vous fait pour infiltrer l'entraînement de Pascaline Lepelletier et quel est votre ressenti sur ces sessions d'entraînement auxquelles vous avez pu assister cachées dans une pièce, je ne sais pas.
Alors je vais faire une réponse simple qui n'est pas tout à fait la réalité, mais on nous avait déjà posé un petit peu la question quand on était allé voir Anselme Solos.
Okay.
Il y a un peu plus d'un an. Comment est-ce que vous avez fait pour y aller? Déjà, on a demandé.
Oui, c'est vrai, voilà. Que c'est mieux.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent l'impression de ne pas oser déjà. Voilà. Nous, on a de la chance, je pense. Dès le début, il y a des gens, des vignerons ou des vigneronnes très intéressants qui nous ont accueillis. Et je pense que ça, tout de suite, ça nous a mis dans le bain de... Eh ben en fait, il faut demander.
Il faut oser, oui.
Et puis, si les gens ils disent non, mais la plupart du temps, on vient quand même pour s'intéresser à eux et à leur métier de manière sincère. Mm-hmm. Donc, ils sont juste très contents de nous accueillir. Et honnêtement, depuis 4 ans qu'on fait ça, le nombre de noms qu'on a eus, j'ai assez d'une main pour les compter, quoi. Donc, la plupart des gens, quand on demande, ils nous disent oui. Ou alors, ils n'ont pas le temps, voilà. Mais il y a très, très peu de gens qui nous ont dit non, qui ne nous ont pas répondu jusqu'à présent. Voilà. Et Pascaline, c'est un peu une relation de long terme, en fait. On l'avait interrogée il y a quelques années pour un épisode sur le Clos Joliette qu'on avait fait. Honnêtement, là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on avait pris contact avec elle à ce moment-là, mais c'était par Instagram, je pense, qu'on lui avait dit « Coucou, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on discute une demi-heure ?» Et on l'avait eu en visio depuis New York.
Ok. Bah oui, je vois. Ça m'est arrivé une fois
bien,
avec elle aussi.
Exactement. Et en fait, on savait qu'elle nous connaissait, on savait qu'elle écoutait nos épisodes. Elle avait parlé de nous dans un article dans la RVF. Elle a une chronique mensuelle dans la RVF. Elle avait fait une chronique sur les podcasts et sur les nouveaux médias du vin. Et elle avait parlé de plusieurs podcasts, dont nous. Et voilà. Et elle like nos posts sur Instagram. Donc, elle sait qu'elle nous a, on savait qu'elle nous avait identifiés, quoi.
Ok.
Et moi, ça a fait tilt l'année dernière quand il y a eu les sélections pour le candidat français.
Oui.
Quand j'ai vu que c'était elle, j'étais assez naïf aussi, je pense, à ce moment-là. Mais je me suis dit, mais tiens, il faudrait qu'on lui demande pourquoi pas faire quelque chose avec elle pendant sa préparation. Ce serait super comme série. Et Florian a bien aidé en la contactant sur Instagram, en discutant un petit peu avec elle.
Simple, coucou.
Voilà, exactement. Ouais. Mais elle est assez simple, hein, donc ça, elle garde beaucoup de. Enfin, elle est accessible, donc ça nous a bien aidé.
Ouais, beaucoup d'humilité
ouais,
chez
exactement.
Pascaline.
Et en fait, ce qui a scellé un peu le truc, ou en tout cas là où on l'a convaincue, c'est que en juillet dernier, il y avait un événement auquel on avait été invité à Mont-Louis-sur-Loire.
Oui.
Très très bel événement. Autour du Chenin, autour des vins et des vins de Mont-Louis. Il y avait plusieurs vignerons, notamment d'Afrique du sud de la France, qui avaient été invités et qui produisaient du chenin. Et puis, il y avait des sortes de tables rondes techniques autour de, du cépage, des enjeux de viticulture, de vinification. Mmh. C'était très intéressant. Et c'était Pascaline qui animait la journée.
D'accord.
Donc, un, on était très contents d'aller à cette journée. Et deux, on s'est dit, il faut absolument y aller, parce que c'est l'occasion de la voir ne serait-ce que 5 minutes,
ouais,
mais pour lui parler vraiment du projet et essayer de la convaincre.
Ok. Voilà.
Et pareil, je me souviens hyper bien de la discussion. On était en train de marcher dans les bois parce que, en fait, l'événement avait lieu dans une clairière au château de la Bourdaisière. Et on discutait, je lui présentais un peu le projet et elle me disait, enfin, si c'est pour faire une série sur ma préparation où on m'entend déguster, voilà, je sais pas si c'est très très intéressant. Mm-hmm. Voilà. Et je lui ai dit, mais. Le concours, c'est un peu un prétexte. Ce que je veux, c'est qu'on parle de vous, de votre vision du vin, et puis qu'on voit un peu les coulisses du concours. Quoi.
Ouais.
Voilà. Elle m'a dit, OK, bah, je vais réfléchir. Quoi. Voilà. Elle m'a dit, ça peut m'intéresser.
D'accord.
Voilà.
Du coup, elle a réfléchi.
Florian l'a relancé. Et puis,
Florian
elle a dit
ne lâche
oui,
rien. Florian pousse des portes.
Puis elle a dit oui. Voilà. Donc,
okay.
Ça, on était très heureux. Très, très heureux.
Entre la première idée qu'on a eue de faire cette série et le oui définitif, parce qu'il y a eu des oui, mais
ça
entre temps,
génial,
ça a duré 6 mois. Ouais.
Okay.
Et c'était un lobbying, alors, de ce que j'ai vu, à Mont-Louis, et sur Instagram aussi, sur le compte du Bon Grain. J'ai aussi mis un petit coup sur mon compte à moi. Et je pense que Romain a dû le faire aussi via le sien. Enfin, on lui a montré qu'on avait...
un peu d'intérêt, quoi.
Ouais, un intérêt assez fort. Et puis, ce qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché quand elle a dit « Ok, on va bosser ensemble ». Alors, Romain était tout seul avec elle ce jour-là. Pareil, c'était une... Je crois que c'était au téléphone, mais elle était à New York, il me semble encore. Et elle nous a dit « Ok, je pars avec vous parce que vous avez une intégrité de travail qui me convient ».
Super.
Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait dans ma vie professionnelle. Moi.
Bah, complètement, aussi, hyper
l'intégrité,
sincère.
L'intégrité venant d'elle en plus, qui pour moi est le mot qui lui correspond le plus.
Ouais.
Et là, à partir de... Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bon, on va faire des très jolies choses avec elle ». Ouais. Et
génial.
Ça a été après un voyage, ultra intéressant, évidemment.
Combien de sessions vous l'avez accompagnée sur combien de sessions?
On en a fait 2.
Okay.
2 et super. 2 autres enregistrements hors session. Et 2 sessions d'entraînement assez poussées. La première à Paris, où je crois que c'était la première fois qu'elle revenait sur Paris spécifiquement.
D'accord.
Pour ça. Donc avec David Biraud, Jérémy Kuikerman, Alexandre Vintier, pour ceux dont je me souviens. Désolé,
oui,
à ceux que j'ai oubliés. Et ça a été une journée hyper intense à la pause déjeuner. Moi, je me disais, mais déjà, si j'étais à sa place, j'en aurais déjà plein la tête.
Ouais, c'est un
elle s'est
marathon.
Refait une demi-journée derrière. Je crois que le soir, elle avait un événement. Intellectuellement et physiquement, elle était déjà bien en place.
Ouais.
Et la deuxième journée était passionnante aussi, parce que là, pour le coup, on a pu déguster aussi, alors pas avec elle, mais un petit peu à côté, en tant qu'invité,
super,
en tant que guest. Et c'était 40 domaines des 7 appellations de la rive gauche bordelaise sur 2015 et 2005.
Ok, oui.
Donc Romain, qui est en pleine formation en plus en ce moment, c'était un super entraînement pour lui.
Ouais,
et
ouais,
on
j'imagine.
A pu goûter une certaine partie de Bordeaux de ce côté-là.
Okay.
Sur 2 millésimes. Un réputé comme étant très bon en 2015, hein, assez compliqué. Enfin très bon aussi, mais un peu compliqué parce qu'il faisait très chaud en 2005. Et c'était passionnant. C'était passionnant de voir ça.
J'imagine. Ça devait être fou de pouvoir assister et de participer, de toucher un petit peu à ce genre de moment.
Ouais, et c'est des journées qui sont incroyablement denses. Hein.
C'est des journées de 10 heures. Combien d'heures ça peut durer une journée pareille?
C'était de 9h à 18h, je crois.
Okay.
Et encore, nous, on s'arrête à 18h, mais
ouais.
Après, il y avait certainement un dîner. Parce qu'elle a des obligations aussi qu'on n'a pas trop suivies, là, des sponsors du concours. Je pense qu'elle était tenue à la participation à d'autres
bien
événements.
Sûr. Ah ouais.
Et je lui tire mon chapeau pour l'implication que ça.
Mais ouais, c'est des entraînements de sportifs, sportives de haut niveau,
ouais,
en fait.
Oui, c'était assez intense. Et par exemple, je me souviens que le jour où on a dégusté avec elle à Bordeaux, on est parti avant la fin parce que j'avais un train à prendre, tout simplement. La journée s'était décalée, il fallait qu'on parte. Et en plus, le soir, elle intervenait à la Cité du Vin pour. Une interview en direct devant la salle pleine pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Donc,
l'énergie,
ouais, elle a la santé.
Ouais.
Elle
ah
a
ouais.
la santé. Ouais.
Non, mais elle est hyper engagée quoi, dans tout ce qu'elle fait. Et justement, vu qu'on est un peu à chaud, il y avait le concours du meilleur sommelier sommelières du monde ce dimanche auquel on était en partie. J'étais présente, Romain aussi, Flo aussi. Quel est votre ressenti du résultat de cette journée-là?
Bah, pour Pascaline, c'est forcément décevant, moi je trouve, même si en prenant du recul, c'est quand même un résultat assez dingue.
C'est extraordinaire.
C'est la première fois qu'elle participe. Ouais. Moi je lui tire mon chapeau pour tout ce qu'elle a fait avant pour se préparer, pour être au niveau et pour ce qu'elle a démontré pendant le concours. J'ai eu la chance d'assister à la demi-finale avec les journalistes donc, qui n'étaient pas ouvertes au public. Donc mm-hmm. là on était dans des petites salles vraiment très proches des candidats. C'était assez intense et c'était très intéressant de voir les candidats passer sur les différents ateliers. Et elle a quand même montré qu'elle avait le niveau des meilleurs, quoi.
Oui,
donc, alors elle a eu un souci sur une épreuve, elle l'a dit elle-même, où elle n'a pas compris la consigne, ce qui laisse un goût un peu amer, parce que si elle avait réussi cette épreuve-là, elle serait peut-être allée en finale. Oui. Enfin, bon,
dans le trio de tête,
on ne sait pas, mais en tout cas, elle termine quatrième. Elle a montré qu'elle avait le niveau. C'est décevant en étant à Paris, chez elle, avec vraiment la salle qui était acquise à sa cause, de pas réussir à montrer ce qu'elle valait sur la finale. Mais quand on regarde le niveau des autres, celui qui a gagné, il avait fini troisième en 2019. Oui. Nina Jensen, qui est deuxième. Elle avait déjà fini deuxième en 2019.
Tout à fait.
Finir quatrième pour sa première participation, c'est quand même
c'est hyper prometteur, quoi.
Performance, quoi.
On a envie
c'est
que ça reprenne.
Voilà. Je vais pas parler pour elle pour la suite, quoi. Voilà. Mais
pronostic, est-ce qu'elle se représente?
Bonne question.
et toi, Flo, qui étais là aussi, ça a été quoi ton ressenti à la fin?
Bah, partager, déception immense, surtout quatrième, c'est la place un peu du con, entre guillemets, quand même.
Cette place est un.
Et c'est affreux. Mais grosse fierté, quand même. 6 mois d'entraînement, ouais. Le laiton et la danoise, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'ils préparent ça activement, et c'est certainement leurs objectifs principaux de vie, si ce n'est pas l'objectif principal. C'était quand même 2 machines en finale.
Complètement.
Le chinois était un peu déjà surpris d'être là, et puis on l'a vu quand il est arrivé sur scène.
Ouais, c'était beau tétanisé. Pour la Chine aussi.
Ouais, c'était très, très beau pour la Chine, mais bon, il y avait quand même une classe d'écart, pas vraiment une classe d'écart, mais un écart de niveau entre le premier et le second, la seconde et puis le chinois. Donc, grosse fierté, surtout par rapport au niveau des finalistes. Avoir réussi à faire ça en 6 mois de préparation. Après, on sait que ça fait des années qu'elle se documente, qu'elle écrit, qui a réfléchi, enfin bon.
Tout en travaillant à côté et en écrit un bouquin, 1000 vignes en même temps, donc c'était...
Mais grosse fierté, ouais. Je lui ai envoyé un message après en lui disant ça, surtout, ouais. Enfin, mon sentiment premier, c'était ça, c'est... Bah, ta place, je serais hyper fier, en fait, d'avoir fait se lever la salle, même si elle était quatrième, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. J'espère qu'elle a profité de ça, quand même. Une partie de l'aréna du Racing 92, là, qui se lève pour l'applaudir alors qu'elle est quatrième.
Ouais, il se passait quelque chose, hein, quand même. Ouais. Hein. Moi, je sais que j'ai eu des frissons. J'avais l'impression d'assister à un match, un truc énorme, quoi. C'était assez fort.
On aurait aimé vivre la salle dans le contexte d'une finale avec Pascaline dedans. C'est clair que ça aurait été certainement un peu du délire, ouais. Mais grosse fierté, ouais. Ouais. Bravo à elle.
Et puis on y croit pour l'avenir, pourquoi pas une représentation. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, Flo, tu nous as dit justement que tu avais eu un moment ce sentiment d'illégitimité, puis qu'à un moment, on y va, on demande, et puis on passe les étapes. Justement, est-ce que le podcast, est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs moyens pour franchir des barrières? Est-ce que vous êtes des garçons timides à la base ou pas? Mais est-ce que ça vous a permis justement de franchir des choses et que c'est un bon moyen pour dire, bon, bah, y a bon grain d'ivresse, j'y vais?
Comme je disais, moi, il y a 4 ans, je ne savais pas faire un podcast. Je ne connaissais vraiment rien en vain. Depuis, je pense que j'ai appris à faire un peu un podcast. Et, alors, je n'ai pas le niveau de Flo et Romain, mais je commence à toucher ma bille un peu en vain. Et donc ouais, ça m'a apporté énormément. J'ai clairement pas encore la légitimité de Flo pour aller appeler des domaines, en tout cas, il y a des gens qui pensent que j'ai des choses à dire sur le vin. On me demande souvent des conseils maintenant.
Parce que tu dois avoir des choses à dire sur le vin.
Discrètement, je demande à Flo et Romain. clairement, ça m'a beaucoup appris et ça je comme disait Romancy tout à l'heure, juste d'oser demander, oui. Bah, c'est la preuve vivante que ça marche et qu'il faut essayer, quoi. Donc, ouais, ça a clairement un bilan extrêmement positif.
Super, merci Antoine.
Bilan très positif aussi, ça a oui, certainement permis de casser certaines barrières. Dans mon cas, ça m'a aussi permis de construire des collaborations dans mon activité professionnelle, puisqu'il y a quelques domaines, quelques vignerons que j'ai rencontrés grâce au podcast. Donc super bénéfice dans tous les sens du terme, quoi. Au niveau personnel, au niveau professionnel, et puis c'est surtout des super moments. Là, on repart dans un mois. Et,
ok,
j'ai
super.
Un peu hâte, ouais. J'ai un peu hâte de repartir, en plus ça... Antoine a vécu un heureux événement il n'y a pas longtemps, donc ça faisait 6 mois qu'on ne l'avait pas vu. On va repartir ensemble, ça va être hyper chouette. Moi, c'est ça que je retiens, c'est les plaisirs que ça me procure.
Bien
de
sûr.
Partir 3 jours avec eux et puis de vivre dans ce petit vase clos et de rencontrer des gens qui sont tous passionnants.
Super.
Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le plaisir qui est le même, quoi. C'est 3 jours un petit peu entre nous, mais avec des belles rencontres humaines, sous, la plupart du temps des très bons vins quand même qu'on peut goûter, et puis des relations un peu particulières avec les gens qu'on va voir. Il y en a qui sont devenus des amis, il y en a avec qui on garde des bonnes relations et qu'on recroise au gré des salons ou ce genre de choses. Et c'est toujours un plaisir de les voir, de discuter, de passer un peu de temps avec eux. Après, moi, à titre personnel, ça m'a permis de me former beaucoup. Parce que, quand même, c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux, il me semble.
Carrément.
Et passer 2 heures ou une demi-journée avec des vignerons qui sont prêts à répondre à absolument toutes les questions que vous leur posez, quand même, ça fait progresser assez rapidement, quoi. Je ne pense pas que j'aurais progressé de la même manière en ouvrant des livres à la maison, oui. Et quand même en goûtant les vins, en les achetant. Là, on y va. On goûte, on compare, on pose des questions sur les millésimes précédents, parce qu'il y a toutes les questions que je pose à micro ouvert, mais je pourrais laisser micro ouvert pendant 3 heures. Après, je m'arrête pas de, enfin, aucun de nous ne s'arrête de poser des questions, quoi. Donc, et pour ça, je remercie vraiment les gens qui nous accueillent, parce que il y a des jours où je me demande si je supporterais quelqu'un comme moi vienne me poser autant de questions,
parce que,
notamment
toi,
autant de questions techniques.
Tu poses beaucoup de questions.
Ouais.
Est-ce que des fois tu cherches l'information, le petit truc que personne ne sait, ou est-ce que tu vas parfois pousser des portraits dans leur retranchement sur certaines questions particulières ou pas?
Non, c'est en ça que je disais qu'on était un peu complémentaires avec Florian, je pense.
Oui.
C'est que lui, il me semble un peu plus sur le côté humain.
D'accord.
Là où moi je suis un peu plus sur le côté technique, en fait. J'ai envie de comprendre comment ça marche,
ouais.
Et pourquoi ils ont choisi ça, et pourquoi ils ont décidé de labourer ou pas, et pourquoi ils font des élevages dans tel contenant et pas dans tel contenant, et pourquoi aussi long ou pas, comment la météo s'influence. Bref, toutes les questions techniques. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi le vin il a cette gueule-là, en fait, quoi.
Ouais,
voilà.
Okay.
Et je dis pas que le côté humain il m'intéresse moins, mais je suis moins à l'aise, j'ai moins les questions qui me viennent facilement que Florian. Mais je pourrais passer la journée dans un domaine si la personne qu'on a en face de nous elle répond à mes questions. J'en ai toujours des questions techniques.
Ouais, voilà. Vous vous complétez super bien, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Alors, vous avez podcasté des grandes figures du vin, comme tu disais tout à l'heure, Anselm Selosse, Tessa Laroche, et puis des moins connus aussi. Et c'est ça qui est tout l'intérêt du podcast, de votre podcast. Il y a notamment des portraits qu'on retrouve aujourd'hui qui explosent un petit peu, comme Isabelle Pangot, qui est de plus en plus connue, mais qui n'était pas tant il y a quelques années.
Ouais, elle avait fait un millésime quand on l'avait vue.
Ouais,
enfin,
voilà,
elle était en train d'élever
le
premier millésime. Donc,
d'ailleurs, j'avais
le début,
ce podcast, on l'avait écouté avec l'illustratrice. Ma binôme avec qui on a produit notre livre, et on l'avait trouvé super chouette. C'est ça qui nous a aussi donné envie d'écouter les autres. Est-ce que dans les portraits que vous avez rencontrés, sachant que j'ai bien compris que tous vous ont touché, marqué, mais est-ce que certains vous ont ou ouvert les yeux sur quelque chose, ou alors marqué d'une manière ou d'une autre, une émotion particulière, que où il s'est passé quelque chose? Est-ce que un portrait plus que les autres, peut-être un portrait commun à vous trois ou non? C'est une question pas évidente, parce qu'on est tenté de dire tous. Mais...
Moi, je vais répondre parce que j'ai une réponse. Enfin, j'ai quelque chose qui me vient en tête et qui va trancher avec ce que je viens de dire sur le côté technique, parce que je ne pense pas que ce soit la plus grande technicienne qu'on ait rencontrée. Mais par contre, c'est une personne qui m'a vraiment touché. Et c'est Agnès Henry, du domaine de la Tour du Mont.
La Tour du Mont.
C'est difficile à décrire, mais... Alors... ce qu'on n'a pas dit depuis le début, les auditeurs le savent, mais c'est qu'on se déplace à chaque fois. On va chez les vignerons et chez les vigneronnes, on va dans les domaines. Et donc ça, ça apporte quand même... déjà pour nous une expérience supplémentaire.
Et de l'expertise aussi.
Voilà, de l'expertise. Et puis on peut voir les lieux, on peut sentir, voilà. Et après, j'espère aussi que dans nos épisodes, ça, ça participe au fait que les auditeurs et les auditrices, ils ont l'impression d'y être. Quoi.
Voilà, c'est bien ça qu'on sûr, ça fait de, vraiment immersion en
c'est
fait.
C'est ça qu'on essaye de faire. Ouais. Quoi. Et Agnès, Henri, la Tour du Bon, alors il y a peut-être un petit truc parce que c'est pas très loin de là où je suis né et ou de là où j'ai une partie de ma famille. Et c'est des paysages et des endroits que j'aime beaucoup. Mais c'est un endroit un peu hors du temps. Enfin, mm-hmm. En tout cas, on est sur les hauteurs du Castellet, donc en appellation Bandol. On est au calme. On a une vue assez dégagée sur les collines autour de Bandol. On voit vaguement la mer. Je ne peux pas dire qu'on voit vraiment la mer. C'est la seule chose qui manque éventuellement à cet endroit. Mais c'est beau. Et puis Agnès, elle a une personnalité un peu... je trouve qu'il dénote un peu dans le monde du vin, très poétique. Et moi, j'avoue qu'en face d'elle, j'étais un petit peu ému. Elle m'a pas mal transporté. Quoi.
Ok, voilà. Super. Merci beaucoup.
Oui, il y a quatre personnes et donc trois portraits qui me viennent en tête. Tessa Laroche,
ouais.
Pour sa franchise. Je pense que s'il devait y avoir une définition du petit Larousse,
de
la franchise, ce serait Tessa Laroche.
Ok.
Et on a regretté après ne pas avoir pu passer la soirée avec elle parce qu'on devait aller sur Tours dormir.
D'accord.
Mais on aurait adoré passer la soirée avec elle. Je pense qu'on se serait vraiment marré. Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon,
oui.
Qui font un seul portrait, mais pour leur simplicité. Ils ont un côté star qui les dépasse complètement et qui pénètre pas du tout, enfin qui passe pas à la porte quand vous rentrez chez eux. Quoi.
C'est fou ça d'ailleurs.
Tout est simple et tout est humilité chez eux, et c'est génial. Et puis ils ont ce petit côté un peu joueur quand ils présentent des bouteilles qui n'ont plus d'étiquette et tout, et qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont un petit peu intéressés par le vin. Ils commencent à jouer et c'est génial. Et le dernier, alors aussi parce que j'ai le plaisir de bosser avec lui, de commencer à bosser avec lui cette année, c'est Jean-Philippe Fournet du domaine de Baraveau.
Oui.
Qui lui, pour sa simplicité aussi, parce que c'est qu'il a une carrière de rugbyman, il a des mains deux fois plus grandes que les miennes, pourtant elles ne sont pas petites les miennes. Impressionnant, et qui a défriché il y a 10 ans 8 hectares de forêt, qui a construit des restanques, qui a... fait pousser ses vignes dessus, enfin qui a fait tout ça pratiquement à la main. Mmh. Donc ça, on se dit, ok, bon, c'est un super taf. Mais en plus de ça, il est chef de culture chez Tempier. Il est consultant ou il conseille aussi d'autres domaines. Enfin, je ne sais pas combien d'heures il a dans sa semaine, lui, mais c'est pour sa force de travail et l'exigence de sa passion qu'il a. Et ce mec-là, moi, m'avait marqué pour ça, ouais, pour la simplicité qu'il dégage, l'exigence qu'il a. Il n'y avait pas plus exigeant que lui, pour moi, et puis la beauté de son domaine. Vraiment, j'étais bluffé par le côté... c'est un amphithéâtre naturel. Enfin, pas naturel parce qu'il a construit, mais qui est époustouflant.
En tout cas, quand on parle, on a vraiment envie d'y aller.
Moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est Alice Olivier Demort.
Oui,
pour plusieurs raisons.
Chablis.
Exactement. La première raison, c'est qu'en fait, c'est le tout premier enregistrement. Donc, je me souviens très bien, ils nous ont accueillis dans leur cuisine.
Excellent.
Donc je me souviens vraiment très bien, on était là avec notre micro, dont on ne savait pas hyper bien se servir, on était dans leur cuisine. Et ouais, c'était vraiment. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté artisanal et humain. C'était la première fois que je rentrais dans un domaine, en fait.
D'accord, c'était ton premier domaine.
Ouais, enfin, via le Bon Grain, mais j'avais fait quelques visites avant, mais des trucs industriels.
Oui,
voilà.
D'accord.
Et donc, je ne m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je ne m'attendais pas à... Enfin, je me souviens quand on s'est garé dans la rue, une toute petite rue, je ne me souviens plus du nom du village d'ailleurs. À Courgis, ouais, où il y a une petite dame, la maison d'en face, qui a ouvert ses volets parce qu'elle a vu trois gars qui étaient sur le. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un trottoir, quoi, mais qui ont cherché la maison.
Okay.
Et donc voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ça quand on parlait d'un domaine à Chablis, quoi. Évidemment, la rencontre hyper intéressante, des gens passionnants et vraiment hyper sympa. La deuxième rencontre, Flo en a parlé, c'est Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon, où un peu pareil en fait, grand domaine, enfin en termes d'image,
oui,
très, très grand domaine. Je sais que Romain, j'en t'avais beaucoup parlé.
Oui, et puis ils ont une renommée qui les dépasse totalement, qui est internationale, c'est assez fou.
Et pareil, quoi, on rentre, on était dans leur salon avec genre des chaussettes qui s'échelent sur le radiateur.
Ouais,
quoi.
Rien de bling-bling.
Exactement, c'était vraiment toute simplicité. Et en même temps, un niveau exceptionnel, des vins exceptionnels, des gens autour de la table d'ailleurs, tous hyper calés, et des échanges passionnants, mais simples, quoi. Et donc, j'en garde un très très bon souvenir aussi.
Waouh, super, ça donne envie de retourner chez toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup des défis climatiques, des régions émergentes, des cépages hybrides, de l'inflation en Bourgogne, enfin des prix qui explosent un petit peu partout. Est-ce que vous êtes, vu que vous êtes podcasteur, vous avez aussi forcément un avis sur les choses, une vision, une pensée pour ce qui se passe aujourd'hui dans le vignoble ? Est-ce que vous vous posez des questions justement au vignoble de demain ? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, le sujet de l'irrigation qui arrive petit à petit, notamment dans le Languedoc, est-ce que toutes ces questions-là qui vont peut-être modifier le vignoble demain, c'est des choses que vous trouvez pertinentes sous un angle justement podcastable ?
On pose souvent la question quasi systématiquement aux gens qu'on va voir, comment est-ce qu'ils abordent le changement climatique.
C'est vrai qu'on l'entend à chaque fois dans vos podcasts.
Ouais, ça revient souvent. Moi, c'est un sujet un peu la même chose que tout à l'heure. Déjà, techniquement, c'est un sujet qui m'intéresse, quoi. Comment est-ce qu'on aborde ça ? Qu'est-ce que ça change concrètement pour les domaines, notamment pour les domaines les plus anciens, parce qu'ils pouvaient avoir, entre guillemets, des habitudes, et comment est-ce que ça modifie leurs habitudes ? Après, mon avis personnel, si c'est ça que tu demandes...
Oui, c'est un peu ça, en fait. Savoir ce que vous pensez.
Déjà, mon avis personnel, il est un peu nourri de
des portraits,
enfin, des réponses que les vignerons et les vigneronnes me donnent à mes questions. Alors, est-ce que c'est inquiétant, le changement climatique et le réchauffement climatique ? On va juste parler du vin. Est-ce que c'est inquiétant pour le reste ? Oui, c'est extrêmement inquiétant, mais je vais me concentrer sur le vin, sinon on en a pour l'après-midi, là. Mais sur le vin, oui, c'est inquiétant, forcément. Déjà parce que... en fait, j'ai fait une expérience récemment, malgré moi, mais on a ouvert une bouteille de vin à la maison avec Camille. Donc c'était un vin de Tony Bornard, le fils de Philippe Bornard dans le Jura, un domaine qu'on aime beaucoup. Et la bouteille est tombée très vite, ce qui nous arrive pas souvent en fait. On boit du vin, mais on boit pas énormément.
D'accord.
Et en fait, je me suis aperçu qu'on avait bu aussi assez rapidement, parce que un, le vin était très bon, mais deux, le vin était assez léger. C'était qu'à 12,5 en fait.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que ces dernières années, même des blancs, en dessous de 13 degrés, j'en bois plus beaucoup. Et en fait, il y en a beaucoup à 13,5, 14. Voilà. Et en fait, je m'aperçois que j'ai un peu plus de mal à les boire. J'ai un peu plus de mal à les boire. Donc déjà, pour le degré d'alcool, tout le monde en parle. Mais effectivement, c'est assez inquiétant. Et puis, il y a des profils qui changent. Il y a des pinots noirs maintenant en Bourgogne à 14 ou 14,5, ça donne quand même des profils un peu étranges. Je veux dire, quand on est sur du Grenache ou du Carignan, c'est peut-être un peu plus normal, entre guillemets, où on est un peu plus habitué. Quand on a des Bourgognes à 14,5, ça fait un peu bizarre.
Comme à Beaune, où il y a des gros problèmes aussi, de surmaturité comme ça.
Donc, est-ce que c'est inquiétant ? Oui. Après, je pense que tout le monde en a conscience, tout le monde est inquiet, et l'inquiétude, ça pousse quand même un certain nombre de gens, voire beaucoup de gens, à se mettre en route, en fait, et à faire quelque chose. Alors, c'est un sujet sur lequel on entend beaucoup parler de changement de cépage, parce que c'est un peu le truc sensationnel. Mm-hmm. Et moi, je pense que changer les cépages, c'est un petit peu le dernier recours, qu'il y a beaucoup de choses à faire avant, mm-hmm. qui vont permettre de changer et de s'adapter. Alors, il y a deux volets. Il y a s'adapter... et aussi ce qu'on appelle l'atténuation, faire en sorte de moins favoriser le réchauffement et le changement climatique. Mais en tout cas, en termes d'adaptation, Il y a énormément de manières de faire et on a déjà vu plein de domaines qui font des essais. Je vais reparler de Cheval Blanc, mais Cheval Blanc, comme plein d'autres domaines, par exemple aussi chez en Alsace, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, Christian Binaire, ouais, qui a découvert végétaux qui permettent de conserver de l'humidité, qui permettent de faire baisser la température des sols, ouais, et donc de moins faire souffrir la vigne. Il y a aussi, à mon avis, comme solution d'adaptation qui a commencé, pas beaucoup en France j'ai l'impression, mais qui va venir de plus en plus, qui est de changer un petit peu la cartographie des vignobles. Ouais. Parce qu'avant, on était beaucoup sur les expositions sud, sud-est, qui permettaient de recueillir beaucoup de lumière et de chaleur. Maintenant, peut-être qu'on va reconsidérer les expositions nord, peut-être qu'on va reconsidérer l'altitude à laquelle on plante les vignobles. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Oui. Avant de se demander est-ce qu'il faut mettre de la Syrah est-ce que toute la Bourgogne va passer à la Syrah, quoi.
Ouais, oui, voilà. Bien sûr.
Et il me semble qu'une bonne partie de la filière vin est quand même très concernée par la question. Pas assez par la question de l'atténuation, je pense, un peu comme l'ensemble de la société, mais quand même assez concernée par la question de l'adaptation.
Super, merci beaucoup Romain.
Alors, il s'avère que moi, c'est mon métier, le réchauffement
climatique. Oui, toi, tu es dans la transition écologique.
Donc, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je vais pas mal répéter ce qu'a dit Romain. Mais effectivement, il y a deux choses à voir. C'est comment est-ce que l'ensemble du monde du vin essaye de réduire son empreinte carbone. Comment est-ce qu'on fait pour que, quand nous, on boit une bouteille de vin, en fait, ça réchauffe pas la planète. Il y a pas mal de choses, enfin, pas mal de réflexions qui sont en cours. Ce qui ressort, c'est quand même que l'ennemi numéro 1, grosso modo, c'est la bouteille en verre.
Et oui.
Donc voilà, à voir si on va tous boire des cubis bientôt, qui serait quand même un peu une des solutions les plus efficaces pour réduire les émissions. Ouais. Et après, une fois qu'on essaye de contribuer donc à arrêter le réchauffement climatique, il y a la question de comment est-ce qu'on adapte les vignes et comment est-ce qu'on adapte toute la filière. Et effectivement, il y a plein de choses à voir, mais dans le monde entier, en France et partout, il faut que tout le monde réfléchisse. Et comme disait Romain, il y a la question des cépages, il y a la question aussi de l'irrigation, ouais, qui va se poser. Quand est-ce qu'on irrigue, où on irrigue, comment. Il y a les questions de culture aussi, hein, oui. Il y a aussi les questions de biodiversité. En plus du réchauffement climatique, il y a la biodiversité, donc il y a tout un tas de sujets qui sont hyper intéressants. Et effectivement, nous, les gens qu'on rencontre, la plupart y réfléchissent et essayent de trouver des solutions, mais c'est vraiment pas facile du tout, quoi.
S'il y en a qui veulent approfondir le sujet, j'en profite là. Moi, il y a deux sources d'informations qui m'ont bien aidé. Il y a un projet qui s'appelle le projet La Cave, LACAVE, qui est porté notamment par l'INRAE.
D'accord.
Et qui a mené des études et qui mène toujours des études en collaboration avec les acteurs de la filière sur toutes les solutions d'adaptation qui peuvent exister face au changement climatique et dans la plupart des régions de France. Des solutions les plus évidentes aux solutions les plus originales, voire les plus farfelues, justement, pour essayer de ne pas se mettre de barrières.
Ouais,
donc ça, c'est un projet super intéressant. Et un livre qui s'appelle « Quel vin pour demain ? Le vin face aux défis climatiques » de Jérémy Kuckerman, Hervé Quénol et Michel Bouffard, qui est un livre assez complet, voire très complet, je trouve, sur la question. Et qui décompose tout le processus de production du vin et qui regarde où est-ce qu'on peut, qui explique en fait où sont les émissions de carbone, mm-hmm, où est-ce qu'on peut agir et qui donne des exemples aussi de domaines qui ont déjà fait des choses importantes. Je pense notamment, il parle à la famille Torres en Espagne, qui est un des plus, oui, gros, probablement même le plus gros producteur de vin en Espagne et qui a une politique assez agressive, mais en tout cas engagée en termes de changement climatique pour réduire les émissions de CO2 dans toute leur chaîne de production, quoi.
Ok,
voilà,
super.
Donc ça, si vous voulez approfondir le sujet, moi, ces deux sources là ça m'a bien aidé.
Donc c'est Quel vin pour demain,
ouais, exactement,
aux éditions Duno.
C'est ça,
super. Ben ouais, du coup c'est génial, hyper précis vos réponses, et j'ajoute à cela qu'il y a des régions émergentes aujourd'hui dont on parle de plus en plus, notamment la Creuse, où je vais ce week-end, voir du vin nature.
La Bretagne aussi.
La Normandie. On parle aussi beaucoup des bulles qui se font en Angleterre.
Ouais.
J'ai la chance de pouvoir y aller cet été pour comprendre un peu ce qui se passe, même s'ils n'ont pas les mêmes niveaux, évidemment, que la Champagne. Mais voilà, il se passe quelque chose aujourd'hui.
Il y a encore un peu de taf en Angleterre, quand même. Mais c'est vrai que c'est prometteur, quoi. Non, mais c'est vrai que, effectivement, on peut se dire qu'ils ont l'avenir devant eux pour produire des pétillants très belles factures. Ouais.
Alors, on arrive sur la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça a été pour vous de passer de l'autre côté, mais j'ai l'impression que vous en êtes sorti indemne. Est-ce que vous pouvez chacun me citer un jaja, un pif, un pinard, un coup de cœur d'il y a longtemps ou de maintenant, mais un vin qui vous a fait vibrer?
Il y en a deux qui me viennent en tête. Un qu'on avait goûté justement chez Pierre Vernoy et Emmanuel Houillon, c'était ces fameuses bouteilles sans étiquette qu'il avait ramenées, qui se trouvaient être, si je me souviens bien, un chardonnay de 91 qu'il avait élevé 16 ou 17 ans de façon houillée et qu'il avait présenté avec son petit air malicieux là, comme est-ce que c'est un vin jeune, est-ce que c'est un vieux vin de paille qui a mangé ses sucres, est-ce que c'est un vieux savianien ou un vieux chardonnay. Et je pense qu'on pouvait trouver des marqueurs de chacun de ces quatre types de vins dans un seul vin. Alors là, que quelqu'un vient de me dire que les vins de nature déjà se gardent pas et sont pas grandioses, là il y a le parfait contre-exemple. Et après, alors c'est une bouteille aussi, je suis grand fan de sucre et ma passion pour le sucre a rencontré une envie de mon beau-papa qui, suite à un événement malheureux l'an dernier, a voulu s'offrir une belle bouteille dont il m'a confié la charge et j'ai réussi à acheter Ikem 36.
Ah oui.
Qu'on a goûté à Noël et qui était assez particulier. C'est là où je voulais en venir aussi, que c'est pas que la qualité de la bouteille qu'il y a dedans, c'est aussi le moment. Est-ce que ça véhicule 36 pour moi, c'est le début de la guerre civile en Espagne, et ce qui a certainement fait que je suis maintenant français, parce que tous mes grands-parents étaient espagnols, donc c'est à cause ou grâce de Franco, j'en sais rien, que je suis en France maintenant. Et c'est le début de ça. Et 36, c'est l'élection du Front Populaire aussi, qui pour moi est un événement qui m'a marqué dans l'histoire. Et donc tout ça a fait que, en plus de la qualité de ce qu'il y avait dans la bouteille, a fait de ce moment-là un moment assez à part. D'autant que ma belle famille, qui n'a pas forcément les mêmes goûts de vin que moi, là sur ce coup-là, on était assez d'accord. Donc c'était hyper sympa. Et puis de voir qu'un vin qui a 85 ans, super, a cette jeunesse et cette fraîcheur.
Ouais, t'avais de la jeunesse et t'avais de la fraîcheur
c'était
dedans.
C'était hyper frais, ouais.
Okay.
Il n'y avait plus trop de sucre. C'était un vrai délice. Ouais. Donc un peu de longueur pour que ça soit extraordinaire, mais un super souvenir. Le plaisir du partage que j'évoquais au début, quoi.
Super.
Voilà pour moi.
Merci beaucoup. Avec l'histoire qui va avec, c'est génial.
Moi, un très bon souvenir, c'est un des vins d'émotion dont on a parlé dans notre série sur les vins d'émotion, c'est Clos Joliette 74, qu'on a dégusté du coup tous les trois chez Flo. C'était, je pense, un des vins les plus anciens que j'ai bu de ma vie. J'ai pas souvenir d'avoir bu des plus vieux. Et en fait, j'en ai entendu parler pendant des semaines, voire des mois.
Et du coup, quelle région ?
Jurançon.
Ok, super.
Et du coup, c'est un vin qu'on a bu tous les trois ensemble. Et j'étais très content de le boire avec Romain Florian parce que, on en a parlé et entendu parler pendant des mois, je pense. Effectivement, je me souviens du. Tout le process de Flo qui l'a ouvert, le matin ou la veille. Il y a eu presque un cérémonial avant qu'on le déguste ensemble. Et effectivement, c'était pas mal d'émotions.
Génial, merci beaucoup.
Petite précision aussi pour le contexte d'avant, c'est que chaque année, on se fixe un pari.
Oui.
Donc je rappelle à Romain d'ailleurs qu'il a perdu le pari de l'année dernière. Et que c'était le Clos Joliette faisait partie de ce pari que donc j'ai perdu. Donc je m'en souviens aussi très bien de cette bouteille. Merci Antoine.
Quand vous perdez, vous donnez des bouteilles, ça se passe comment ?
Alors on se les donne pas du coup. Il y en a un de nous trois qui doit la trouver et puis on la déguste ensemble. Donc le premier c'était moi l'avoir fixé, c'est perdu. Comme je les perds tous, mais je les perds mieux. L'an dernier Romain l'a perdu aussi. Donc cette année c'est Antoine qui va s'y coller.
Ok. Et Romain ?
Alors moi, je vais raconter une petite histoire qui a eu lieu lors de notre tout premier déplacement. C'est une bouteille qui m'a pas marqué gustativement, mais je pense que ça va faire rire Florian. C'est une bouteille que je lui ai fait déguster à l'aveugle parce que je voulais. J'aime bien quand on déguste à l'aveugle parce que ça remet les compteurs un peu à zéro, quoi. On ne sait pas
sûr.
Où on est et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et donc là, je lui ai fait déguster un vin rouge. qu'il a trouvé bon. Je vais pas mentir, je vais pas dire qu'il avait trouvé ça très bon, mais en tout cas, il avait trouvé ça honnête. Et il s'avère que c'était un mouton cadet,
ah oui,
qui est quand même un vin industriel assez décrié, et qui, je sais plus quel millésime c'était, mais sur le millésime que j'avais apporté, honnêtement, était loin d'être ridicule, quoi. Voilà. Et surtout, bah, on se connaissait un peu, mais pas plus que ça. Et il s'attendait pas du tout à ce que j'apporte ça. Je pense même qu'il a été un peu déçu quand il a vu le truc. Il s'est dit, mais il se fout de ma gueule ou quoi, lui? Voilà.
Ouais, moi j'aurais peur. Je sais pas.
Voilà. Heureusement, il y en a qu'est-ce d'autres qu'on a partagé depuis qui sont qui ont été bien meilleurs que ça, quoi. Mais c'était un bon exercice, je trouvais à ce moment-là, quoi. Après, à titre personnel, alors c'est pas une histoire entre nous, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, mais moi, ces derniers mois, je dois avouer que j'ai été pas mal touché par des blancs autrichiens.
Oui.
Et il y a quelques semaines, j'ai dégusté un Grüner Veltliner de la région de Wachau 2011. Que j'avais acheté à Beaune chez un caviste. Et je dois dire que c'est un vin qui m'a beaucoup touché. Je parlais tout à l'heure de l'alcool dans les vins. Bah là, c'était plutôt 11,5-12 degrés. C'était
super
assez
digesté.
Léger. Ouais, et puis quelque chose d'aérien, surtout de vraiment, vraiment élégant. Et je me rends compte, à force de goûter, qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans les vins, c'est la saveur umami.
Oui,
donc cette espèce de quelque chose de savoureux, cette salivation qui emplit la bouche. Et donc ça, je l'avais beaucoup sur cette cuvée-là. Je l'ai eu beaucoup sur une cuvée récemment, la cuvée du professeur de millésime 2018 du domaine François Rousset-Martin,
oui,
qui m'a beaucoup touché aussi. J'ai bu ça au restaurant Capitaine à Paris. Et je m'aperçois que c'est ça qui me touche pas mal dans les vins quand il y a ça, parce que ça donne de la longueur, ça donne de l'énergie,
oui,
ça donne des vins qui vibrent. Et c'est ça les vins, moi, dernièrement, qui m'ont transporté, quoi. Voilà.
Waouh, super. Bah, on a envie de découvrir tous les vignobles dont vous avez parlé et vos coups de cœur aussi. Eh bien, merci beaucoup d'être passés tous les trois de l'autre côté du micro. Et bah, à très vite pour ce prochain numéro.
Ouais,
et
surtout merci à toi de nous avoir proposé ce bon exercice.
Avec grand plaisir. C'était un exercice aussi pour moi de passer de ce côté-là du micro. Et j'espère que c'était un bon moment pour vous.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Chers auditeurs, chères auditrices, maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, nous aimerions vous connaître, vous. On espère sincèrement avoir le plaisir de vous rencontrer très vite autour d'un verre ou d'une bouteille. Parce que nous avons encore plein d'anecdotes à partager, mais surtout parce qu'on a envie de connaître les vôtres. Les vins que vous aimez, vos rencontres marquantes, et toutes ces belles histoires et émotions qui font le sel de la vie et nourrissent notre amour du vin à toutes et tous. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Nappet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. Et un grand merci à Alessandra Fotorino pour cet épisode qui n'aurait jamais vu le jour sans elle. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon !